Dans cette première intervention, je voudrais interroger Benoît sur la forme et la méthode universitaire, puisque son travail est une thèse. Et c'est une méthode, une forme qui sont dictées par des règles formelles et informelles et qui cadenassent ce qu'on pourrait appeler un style. On peut se plaindre de ceci, mais on peut rarement y échapper. Je conçois une thèse comme une brique de savoir qui s'appuie sur d'autres briques que le chercheur a devoir de connaître et citer, et sur lesquels il construira sa brique propre, qui viendra donc hausser ce mur vers les hautes sphères de la connaissance. C'est une utopie, évidemment, mais un guide puissant dans la forme de l'écriture. Toujours sur ces informations, ne jamais affirmer ce qu'on ne peut pas démontrer. La beauté de cette écriture est qu'elle permet de trouver des sources claires. Ainsi, dans l'entrée du mémoire de Benoît, tu cites The Future of Comic is in the Past, qui est une citation, et tout nous révèle que cette citation est apparue dans une monographie de 2004 de Daniel Reburns sur Chris Ware, dans une note de bas de page spécifiant qu'elle a été dite lors d'une conversation téléphonique entre Ware et Spiegelman. C'est là qu'on sent toute la puissance de l'approche historique du réel.
La thèse se fait dans un cadre aussi institutionnel, donc il y a, comme tu l'évoques, il y a ce format auquel on doit essayer de se prêter. Donc à la fois le sujet thèse était quelque chose qui était personnel, mais qu'on fait aussi rentrer dans un cadre professionnel. Et donc ça c'est quelque chose que je voulais aussi rappeler, c'est que c'est une thèse qui est le résultat donc de 4 à 5 années de recherche qui ont été financées aussi par le FNRS, et que c'est aussi un cadre de travail assez propice parce que financé et qui permet d'avoir le temps justement de mener une recherche que des essayistes, des écrivains, des fans BD files ou des amateurs n'ont pas forcément le temps d'investir autant d'énergie et de temps en fait simplement dans cette recherche. Ce qui permet aussi de des fois se perdre en digression, d'explorer des fausses pistes qu'on n'utilisera pas. Tout le plan de la thèse était beaucoup plus large au début, donc j'avais l'ambition d'un corpus beaucoup plus comparatif qui s'est réduit. Donc je pense que c'est utile de rappeler ce travail ce labeur aussi difficile qui prend du temps, qui a été aussi difficile à finir. La dernière année a dû être prolongée de façon assez. Oui, des fois, mentalement aussi assez compliqué, je pense. On est beaucoup à faire cette expérience, donc c'est utile de rappeler à la fois la stabilité du boulot, qui dans mon cas était dans des conditions assez propices à la recherche, et aussi la difficulté parfois psychologique de travailler de façon isolée sur un sujet, et qui en même temps, pour ma part, avait aussi une dimension collective d'échange avec les collègues donc du groupe ACME, aussi avec les collègues de la Brèche, qui est un collectif de jeunes chercheurs et chercheuses françaises, et parmi lesquels il y a beaucoup d'historiens. J'ai énormément gagné dans ma méthode avec les échanges avec des collègues qui sont proprement historiens. Donc moi, je viens d'une formation littéraire qui est d'abord ancrée dans la lecture de textes, dans l'analyse de textes assez rapprochée, et qui du coup a aussi plus de liberté au niveau du style, justement. Disons que les codes des études littéraires ne sont pas les mêmes que les codes de la méthodologie historique. Et pourtant, on a quand même beaucoup partagé dans ces échanges interdisciplinaires sur comment faire un travail d'histoire. Et je pense que la thèse s'ancre aussi dans cette espèce de, on va dire, renouveau des 10 dernières années où il y a vraiment, dans l'histoire des recherches universitaires sur la bande dessinée, on voit ces 10 dernières années l'émergence de jeunes chercheurs et chercheuses, notamment en France, sur des disciplines d'histoire, sur des disciplines de sociologie, là où la recherche traditionnelle s'était faite à la fois un petit peu en marge de l'université et surtout portée par des études sémiologiques. Donc, quand on pense à Benoît Peters, Thierry Grunstein, Thierry Smolderen, qui est peut-être un cas un petit peu à part encore, c'est les noms fondateurs de la discipline, mais qui ont eu une trajectoire qui n'était pas complètement dans les canaux universitaires, ce qui leur permet aussi d'écrire des essais qui ont des autres titres. Et on voit, malgré différentes thèses, hein, une de Jas Frédéric Pack, qui ont aussi terminé des thèses en histoire de l'art. Donc on voit, je pense, sur les 10, 15 dernières années, une diversification des différents champs qui se portent sur la bande dessinée, avec des thèses chaque fois un peu différentes en fonction des disciplines. Et pour un peu revenir, j'avance un peu en zigzag, mais je pense que ça serait un peu comme ça. Sur les 10 dernières années, on a vu pas mal de thèses en histoire qui s'affranchissent de l'histoire, on va dire, hagiographique de la bande dessinée. Donc, où on n'est plus concentré sur une histoire des grands noms, des grands auteurs, des grandes revues, mais où on essaye de réinscrire l'histoire de la bande dessinée dans une histoire économique, dans une histoire sociale, Je pense au travail, par exemple, de Sylvain Lesage, qui a fait une étude du changement des supports de bande dessinée. Donc, comment est-ce que la bande dessinée bascule d'une culture de la presse à une culture du livre, et tous les impacts sociaux, économiques, culturels qui peuvent résulter de ce changement de support, qui n'est pas qu'un changement de support. Donc, enfin, le livre amène une pérennisation de l'œuvre, mais aussi une espèce de recadrage littéraire qui redéfinit la bande dessinée institutionnalisée comme un neuvième art pour adultes. On oublie un peu l'histoire populaire d'un médium pour enfants. Il y a tous des réajustements qui se font dans le changement de support qui commencent à être étudiés. Et je pense que ce travail pouvait se faire à partir du moment où on n'avait plus trop besoin de revendiquer une légitimité pour la bande dessinée. Donc un peu en se libérant de cette question de la légitimation, le besoin de convaincre d'autres universitaires du côté légitime du médium qu'on étudie, on s'est un peu affranchi de certaines questions pour finalement avoir une démarche proprement historique. Enfin, dans le cas de Sylvain Lesage, Florian Moine, Jessica Cohn, qui travaillent un peu à la suite de gens comme Pascal Horry, Jean-Paul Gabillet, qui sont vraiment des historiens, ont pu vraiment faire des travaux d'ordre historique. Donc, ça, c'est un peu, on va dire, le paysage scientifique dans lequel je me suis ancré, aussi avec le développement aux États-Unis des comic studies qui, sur les 20 dernières années, a vraiment explosé. Là où on peut dire que l'Amérique avait un peu un retard sur la recherche en bande dessinée, qui est complètement rattrapée, si pas décuplée. Et donc, c'est un peu pour avoir ce paysage scientifique dans lequel je m'ancre et dans lequel cette thèse a pu se réaliser aussi. Parce que c'est de ce fait de changement de paysage aussi qu'une thèse comme celle-ci peut être financée par une bourse. Donc c'est un peu un cercle vertueux. Et c'est pour aussi rappeler toutes les conditions préalables à l'émergence d'un travail de thèse, on va dire.
J'ignorais ce background plutôt littéraire de ton cursus. Et en fait, ça ne m'étonne pas. Une des choses qui te distinguait justement, c'était la capacité, ou plutôt le désir que tu as eu d'aller sur le motif vraiment, c'est-à-dire que le corpus sur lequel tu t'es appuyé pour faire tout ceci est un corpus de pas mal d'auteurs vivants. Tu t'attaques à une matière plutôt riche et aussi une matière qui est visuelle, puisqu'en fait il y a vraiment un retour sur le motif de la bande dessinée et pas simplement un motif quantifiable qui serait qui a publié ou par qui a gagné quel prix, qui a eu comme assistant tel autre auteur, etc. Il y a quelque chose qui est une vraie rencontre, tu t'es baladé, tu as été aux États-Unis pas mal, etc. Donc c'est quelque chose aussi qui est permis par le contexte historique dont tu parlais, de l'arrivée des comic studies et de cette ouverture par rapport à l'histoire.
Je pense que c'est très bien vu cette idée de motif. Je n'aurais pas, j'avais pas pensé à le décrire en ces termes-là, parce que pour moi, motif, ça évoque l'idée de motif littéraire, justement, de quelque chose qui est utilisé dans un texte à travers les âges. Et en même temps, c'est très juste il y a une vraie attention au texte, enfin, ou à l'idée de texte, dans le sens peut-être d'œuvre, d'aller voir quels sont les usages concrets de certaines images, comment est-ce que Chris Ware va rééditer Frank King, et la façon dont il est réédité va avoir un impact sur la manière dont on lit Frank King aujourd'hui, comment est-ce que le paratexte, donc comment est-ce qu'on réemballe un auteur du passé, comment est-ce qu'on redonne à un auteur du passé un vernis qui fait qu'on peut le lire au présent. Donc il y a vraiment un intérêt à la fois sur une matière visuelle, sur une matière narrative, et la façon dont elle peut parler à différentes époques. Donc dans la démarche même, l'idée était moins de refaire une histoire de la bande dessinée, d'arriver à une histoire plus juste de la bande dessinée, de se dire, ah oui, telle et telle légende qu'on ressasse dans les scènes de la bande dessinée, par exemple l'invention de la bande dessinée, c'est quelque chose sur lequel on est revenu encore et encore sur les dernières années. Tout ça, ça m'intéresse moins d'essayer d'établir une espèce de réalité historique, qui est plus au final l'objectif d'historien, même d'historien de la culture, que de penser comment est-ce que cette réalité historique est perçue au présent. Donc comment est-ce que on réécrit l'histoire au présent dans un espèce de contemporain qui est quand même historiquement situé. Donc je me concentre pas mal sur le début des années 2000 qui est très différent de la situation actuelle à l'extrême contemporain. Il y a cette difficulté aussi de travailler sur une période qui est très proche, en même temps déjà un peu historique, mais qui est difficile à aborder avec l'avantage de la distance, mais qui permet aussi, comme tu le dis, par des voyages, par des rencontres, d'avoir une expérience de terrain d'une certaine manière, même si ce n'est pas Je ne dirais pas que j'ai fait un travail d'ethnologie ou d'anthropologie, mais pour moi, ça a aussi toujours été important d'aller dans des festivals, de s'entretenir avec des auteurs, de rencontrer des éditeurs. J'avais aussi un entretien avec Peter Maresca, qui est l'éditeur des Sunday Press, donc qui sont ces très grands volumes qui rééditent les pages dominicales du début du siècle dans leur format d'origine. Et même si c'est des éléments que je n'ai pas toujours réutilisés de façon concrète dans la thèse, ça permettait de saisir quels sont les enjeux de cette mémoire culturelle, en fait. Même quand il n'y en a pas, même quand on rencontre des gens qui, en fait, n'en ont rien à faire de l'histoire de la bande dessinée, c'est aussi intéressant à ce titre-là.
Alors pour avancer un petit peu dans ton travail, on a parlé de corpus, mais on n'a pas encore défini ce corpus. Tu as abordé la bande dessinée, mais plus massivement américaine. Alors comment s'est fait ce choix sur de quelle bande dessinée on allait parler? Est-ce que tu parlais d'un spectre très large que tu as réduit? Et j'imagine que ça a aussi à voir avec des rencontres et des envies. Tu es quand même enclin à une certaine bande dessinée. Je crois que pour tous ceux qui te connaissent un peu, ils peuvent voir dans les festivals vers quoi tu t'avances et de quel sujet de conversation tu aimes te mêler. Et donc voilà, comment s'est fait ce choix d'une partie de la bande dessinée sur laquelle tu as bossé, autant en termes d'époque que d'auteur?
Cette question de la délimitation du corpus, c'est toujours une angoisse pour le thésard, parce que c'est une des questions qu'on peut te balancer à la figure au jury au moment d'épreuves, de rencontres avec les lecteurs qui sont aussi les évaluateurs ou les évaluatrices du travail. Et donc c'est toujours source d'angoisse en se disant, voilà, comment est-ce que je peux justifier le corpus? Et ce qui est aussi, c'est pas seulement une angoisse étudiante, c'est aussi une importance méthodologique. Donc comment est-ce que je choisis les œuvres sur lesquelles je me pense, et comment est-ce que je peux justifier ce choix, même si c'est un choix qui est aussi formé par un goût, par des envies. Pour moi, c'est quasiment impossible d'écrire sur quelque chose que je trouve inintéressant. Je suis facilement attiré par un spectre assez large d'œuvres que j'aime ou que j'aime moins, mais qui me parlent parce qu'elles sont intéressantes, parce qu'elles soulèvent des enjeux qui me semblent importants, ou alors qui fait regarder les choses de façon différente, et qui du coup a valeur d'exemplarité, ce qui est une façon dont le corpus a pu être assemblé. Mais pour aller droit au but, au départ, j'avais envisagé d'avoir une étude plus comparative, donc de beaucoup plus garder l'Europe dans la conversation, et d'avoir quelque chose qui était de l'ordre quasiment comparatif. Donc chaque chapitre se pencherait à la fois sur l'Amérique et sur l'Europe, et donc surtout la création belge et francophone. Ce qui n'est qu'une petite partie de l'Europe au final, bien sûr. Voilà, je me suis vite rendu compte que dans le cadre d'une thèse, ce n'était pas du tout réalisable, parce que les deux contextes sont aussi très différents. Enfin, autant il y a une circulation énorme des œuvres entre la bande dessinée européenne et américaine, autant on a des cultures qui sont très différentes. Et comme une des problématisations qui s'est posée dès le début, c'était cette question du roman graphique. Enfin, comment est-ce que le roman graphique change la perception dont on a de l'histoire de la bande dessinée, avec un peu cette hypothèse que aux Amériques, il y a cette idée de rupture très forte. Donc le graphic novel crée cet effet de distinction, de rupture avec l'histoire de la bande dessinée, qui est à la fois très critiquée par les universitaires, enfin pour tous les effets de distinction, les effets assez violents de gentrification presque de la bande dessinée, où on sélectionne en fait une toute petite partie de tout ce qui se rapproche d'une culture littéraire, pour considérer le reste comme bon pour la poubelle presque. Et donc j'essaie de regarder, voilà, comment est-ce que en même temps qu'il y a cet effet de canonisation de certains auteurs de bande dessinée, justement ces auteurs qui se retrouvent dans des positions hiérarchiques favorables dans les institutions mettent aussi cette position au service d'une forme de mémoire de la bande dessinée, et du coup redistribuent des liens avec une histoire plus longue, recréent une forme de tradition qui est bien sûr sélective, qui a elle-même laisse des bandes dessinées peut-être les plus populaires, donc qui n'est pas sans anxiété de statut culturel, bien sûr, mais il y a un peu ce jeu de diplomatie presque culturelle. Et en fait, je me suis rendu compte que cette discussion autour du roman graphique, c'est des choses qui sont très américaines, et pas du tout perçues de la même manière en Europe. En Europe, l'idée d'une bande dessinée adulte, ambitieuse, enfin, d'avant-garde, alternative, tout ce qu'on veut, existe depuis les années 60-70, et s'est institutionnalisé beaucoup plus rapidement qu'aux États-Unis, et où ses effets de rupture sont beaucoup moins larges. Donc le roman graphique est plus pris comme une forme de format éditorial, installé, qui est associé un peu à la récupération justement de la bande dessinée alternative, et où du coup les enjeux au niveau de cette différence culturelle entre graphic novel et roman graphique étaient intéressantes en soi, mais compliquaient beaucoup trop la chose, enfin, dans le cadre d'une thèse. Donc j'ai essayé de réduire ce corpus au roman graphique américain, on va dire, des années. Au moment des années 2000. Donc je regarde en gros les cinq auteurs qui gouvernent un peu la thèse, c'est Art Spiegelman, Daniel Klaus, Seth, Charles Burns et Chris Ware, et avec une myriade d'autres auteurs qui gravitent autour, un peu comme il y a un exemple qu'elle a lu, c'est Cole Closer, qui est un peu une forme d'imitation de ces auteurs-là, mais qui est beaucoup plus jeune aussi. Ces cinq auteurs très connus, mais aussi un moment spécifique de leur carrière, on va dire à partir des années 2000, quand leur travail devient un peu mainstream. Donc je m'intéresse moins à cette période du début des années 90, quand ils commencent à faire leur bande dessinée, où il y a peut-être justement cet effet de rupture est justement plus fort. Donc quand Chris Ware fait Jimmy Corrigan, il crée une parodie du super-héros, enfin de Superman, hein, cette espèce de figure paternelle quasiment ratée qui se suicide. Pareil, Daniel Klaus a beaucoup de parodies de super-héros. Et en fait, quand leur travail est intégré aussi à l'institution, ils commencent justement ce travail de diplomate. Dans les années 90, ils s'intéressaient déjà à l'histoire de leur médium. Mais à partir des années 2000, avec cet effet de restructuration institutionnelle du roman graphique, permet aussi que, enfin, toute forme de transmission de la bande dessinée dans des contextes institutionnels, dont le musée, dont l'édition, donc la réédition dans des contextes plus littéraires, et ainsi de suite. J'ai essayé aussi de chercher des exemples qui étaient des exemples de transmission moins institutionnalisés, justement, pour pas seulement considérer cette construction de classique suivant des méthodes bien connues ou suivant des institutions de mémoire qui ont justement ce rôle de canonisation, mais plutôt de regarder comment se transmet une forme de mémoire dans la bande dessinée, aussi par le phénomène de citation interne, par les clins d'œil, des marques d'une culture commune qui sont lisibles dans la bande dessinée et qui, par ce biais-là, font effet de transmission. En choisissant de structurer la thèse autour de 5 à 6 gestes bien définis, a eu l'effet aussi de restructurer le corpus en choisissant des œuvres qui mettaient en scène ces gestes de façon pertinente. Donc, à chaque fois, pour chaque geste, j'ai choisi un ou deux cas de pratique qui soit justement font contraste, un même geste peut être réalisé de manière différente, soit qui ont un caractère d'exemple très, très utile pour comprendre les enjeux autour de ces gestes.
Tu parlais tout à l'heure du fait que la bande dessinée est plutôt tardive dans sa légitimation universitaire, mais aussi comme art, elle a tardé à trouver sa place. Et d'ailleurs, là où d'autres formes d'art, comme la littérature, la peinture, l'architecture, ont depuis longtemps obtenu la reconnaissance en passant par une forme d'historicité, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais donc la fabrication d'une de leur propre histoire d'un point de vue institutionnel. La bande dessinée n'a esquissé sa propre histoire qu'assez récemment, comme tu le soulevais. C'est ce qui fait qu'elle est jeune, malgré le fait qu'on peut lui donner un siècle. Bon, d'autres médiums ont le même problème, hein, la vidéo en art, par exemple, ou la performance, bien que dans le milieu de l'art, toujours, évidemment, on a beaucoup plus de critiques et des formes d'entrée qui sont beaucoup plus royales dont la bande dessinée n'a pas bénéficié. Alors, si un Jean-Christophe Menu a pu dire que la bande dessinée n'avait pas encore fait sa modernité et que c'était bien, parce qu'une partie de son processus de constitution n'avait pas encore été fait, enfin, je dis ça en ces termes, lui il dirait ça de la manière beaucoup plus rock'n'roll. Eh bien, donc la modernité, si on la comprend comme la recherche des limites du médium pour en définir la spécificité, est toujours en partie en cours en bande dessinée, et on peut se demander si il n'y a pas un côté anachronique à vouloir passer par une phase d'auto-légitimation, par la recherche de ses spécificités, etc. Le travail que tu fais avec d'autres personnes du groupe Acmé est une manière active de constituer ce champ de la bande dessinée, mais en essayant de sauter des étapes pour aller directement vers le cœur du sujet, qui est une bande dessinée contemporaine et la manière dont elle affecte notre monde contemporain.
Tu me lances beaucoup de pistes et je pense ce côté retardé, enfin oui, bon, ce côté retardé de la bande dessinée, ou ce côté anachronique, est aussi une des choses les plus passionnantes ou intéressantes dans ce médium. Que l'on considère qu'il y a vraiment un retard ou pas, ou que c'est pertinent de penser que la bande dessinée est comme un art en retard, le fait qu'il y ait une forme de légitimation, une forme de construction de son histoire, qui peut aussi être, enfin je viens de le mentionner aussi du côté universitaire, où les études vraiment historiques, en fait, apparaissent, enfin les approches professionnelles de l'histoire apparaissent seulement récemment, c'est aussi, ça peut aussi être vu comme un... soit comme un retard, soit comme un effet de changement du champ historique. Ça peut aussi être vu comme un avantage, comme tu disais, pour Menu, le fait que la bande dessinée soit en retard sur les avant-gardes lui permet, enfin c'est ce qu'il rajoute, hein, la bande dessinée est un art en retard, mais au moins elle n'est pas morte, elle. Ça lui donne justement, ben voilà, elle grimpe dans le ring de boxe et elle a un avantage sur tous ses adversaires parce qu'elle est encore jeune et vivace, et je trouve que ces pensées sont stimulantes parce que ça souligne aussi le fait que l'histoire n'est pas ce trajet linéaire où tout est pris par des périodes de temps, quoi. Donc ce n'est pas que l'histoire évolue d'une seule manière, mais que certaines formes culturelles vivent des périodes à des moments différents, enfin qu'il y a toujours une asynchronie entre différents médias. En même temps qu'il y a aussi, bien sûr, une époque partagée, quoi. Donc c'est un peu ce double effet de continuité historique, de contraste historique, de périodisation, mais aussi d'évolution qui ne se fait pas dans les mêmes termes, qui font de la bande dessinée un média intéressant parce que ça nous force à repenser les catégories traditionnelles de l'art. Un exemple bien connu d'un chercheur, Barnaby, qui a fait un livre du coup, sur la transformation du champ de la bande dessinée en Europe dans les années 90. Donc, c'est un Canadien qui a une perspective un peu différente sur la production européenne, qui avait été à beaucoup de festivals, etc. Et lui caractérisait un peu cette modernité de la bande dessinée européenne comme le modernisme postmoderne d'une avant-garde. Donc il disait, c'est dans la transformation de la bande dessinée, en fait on retrouve... Toutes ces époques donc, qui devraient être scindées dans l'histoire de l'art, où on commence par les avant-gardes qui revendiquent un genre de modernisme, une autonomisation de l'art, et puis qui après on connaisse une crise avec le postmodernisme, enfin, qu'on soit d'accord avec ces grands jalons ou pas. Lui, ce qu'il proposait, c'est justement, dans la bande dessinée actuelle, c'est vraiment le fouillis, parce qu'on trouve des revendications hyper modernistes engagé pour une spécificité du médium, mais en même temps qui brasse un genre d'éclectisme très postmoderne. Et je pense qu'il y a cette problème. Enfin, c'est aussi dû à une forme d'art en retard, mais qui se cale aussi sur une certaine histoire de l'art. Donc, il va intégrer en partie certains modèles de l'histoire de l'art. Ce qui peut aussi être une pensée compliquée, parce qu'on peut se dire aussi que c'est une mauvaise piste de chercher à plaquer la bande dessinée dans un modèle d'évolution qui serait, elle a besoin de faire sa modernité, et de ce fait-là, elle est en retard, comme s'il y avait, comme si tout art devait suivre un certain modèle. C'est aussi déjà présenter la bande dessinée comme une forme artistique, ce qui en soi débattable, quoi. Est-ce qu'on a besoin de représenter la bande dessinée comme une forme artistique? Ça semble quelque chose d'énormément acquis à cause, justement, de cette lutte de la bande dessinée pour le Nouvel Art, de la construction de festivals, de musées, etc., qui sont basés sur cette idée de la bande dessinée comme art, sur cette... Enfin, Nathalie Hennich parlerait d'artification, c'est pas quelque chose que j'utilise parce que ça m'intéresse pas directement, mais il y a cette construction de la bande dessinée en tant qu'art qui me semble plus européen qu'américain, pour le coup. En fait, c'est tout un rapport à une question d'autonomisation. Donc, comment est-ce qu'on écrit l'histoire d'un médium aussi est aussi une question de la bande dessinée aujourd'hui commence à écrire une forme d'histoire autonome où justement on la voit comme histoire faite par ses créateurs, faite par des grandes œuvres, des grands maîtres de la bande dessinée, et on essaye de voir un peu presque une histoire assez interne qui bat en brèche cette idée que la bande dessinée serait un art sans mémoire. Donc c'est l'expression de Thierry Grunstein dans un livre qui s'appelait « La bande dessinée, un objet culturel non identifié », sur lequel il revenait sur les problèmes de légitimation. Et en fait, il opposait ce paradoxe entre la bande dessinée qui maintient artificiellement des séries en vie, des personnages qui sont continués après la mort de leur auteur, etc., et en même temps, qui oublie aussi beaucoup de productions qui ont été réalisées en marge, qui sont complètement oubliées. Prenez l'exemple de Crépax, qui, dans les années 90-2000, était... introuvable en réédition. Le fait qu'il n'y a pas de classique en bande dessinée ou le fait qu'il n'y a pas de livre de réédition de Töpffer, ils ont tous été. Enfin, il y en a eu, mais tout a été vendu et elles ne sont plus rééditées. Donc, il y a un peu, c'est un peu ce paradoxe qui en fait rejoue un peu les oppositions entre une forme artistique à l'histoire autonome, où en fait les critères de valeur ne sont jugés que à l'aune de ses productions internes, pour le dire ainsi, et une industrie culturelle qui serait purement commerciale et purement amnésique aussi. Mais c'est un schéma beaucoup trop binaire. C'est un peu imposé à la bande dessinée aussi une forme de mémorialisation qui est décalquée sur l'histoire de l'art en disant il faut des grands auteurs qui doivent être disponibles sur l'histoire littéraire, alors que la bande dessinée en tant qu'industrie culturelle a toujours trouvé des façons de préserver son histoire, même si c'est des façons beaucoup moins pérennes que celles de l'art institutionnalisé, que ce soit des bacs à solde, que ce soit des BDM et enfin des livres de cotes de collection, etc. On peut en penser ce qu'on veut de ces pratiques, c'est tout de même des formes de mémorialisation qui sont pour le coup moins éditoriales que venant du ras du sol des lecteurs et qui ont eu leur impact par la suite sur l'éditeur qui se disent ah oui, puisque les fans commencent à assembler un genre de mémoire de la bande dessinée, on peut aussi jouer sur cette mémoire, d'où une œuvre comme Watchmen qui est saturée d'histoire de la bande dessinée parce qu'elle était réalisée pour le direct market, donc le marché des librairies aux États-Unis, où il y avait déjà une différence en fait dans le type de lectorat. On n'était plus dans la vente de comic book dans les kiosques à journaux, mais dans un endroit où on pouvait trouver des back issues, donc des numéros anciens, où il y avait une forme de saturation de la mémoire dans cet espace du comic book shop. On voit aussi comment ces changements sont dus à des effets matériels. Mais j'ai encore fait une petite digression. Tout ça, c'était pour arriver. Donc à dire que voilà, cette idée que la bande dessinée sera un art sans mémoire, c'est un peu pour moi une fausse image, ou alors en fait c'est basé sur une idée assez réduite de ce qui est, de ce qui serait une mémoire de la bande dessinée, qui serait une mémoire davantage autonome. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi dans la thèse, qu'il y a des façons de partager ou de transmettre l'histoire de la bande dessinée qui ne sont pas des voies canoniques, mais qui ont un effet perceptible assez fort. Et ça me permet d'arriver, j'avais bien préparé cette question, d'arriver au dernier point, où en fait, en se disant que la bande dessinée arrive en retard, on loupe, en fait, on perd aussi de vue les autres médias. Donc il faut aussi penser cette espèce de forme d'historicisation de la bande dessinée en regard de ce qui se passe aussi dans la culture haute, et où justement. On voit un espèce de mouvement contraire qui est assez étrange, où la bande dessinée s'institutionnalise par le biais de prescripteurs. Donc là, enfin, les auteurs que j'étudie ont un rôle de prescripteur aussi, en guidant les lecteurs vers leurs influences ou en guidant vers certains auteurs de la bande, de l'histoire de la bande dessinée. Ils amènent leurs lecteurs vers des nouvelles lectures. Tandis que dans les cultures hautes, on voit aussi un genre de perte d'autorité des prescripteurs habituels. En fait, la littérature et l'art sont un peu rentrés dans le mur de l'autonomie qui s'était construite parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'à force d'essayer de se couper de la société, ils perdaient complètement de leur pertinence. Enfin, plus la bande dessinée s'autonomise, on va dire, plus la culture savante cherche à se désinstitutionnaliser, où justement elle est devenue un peu artificielle dans ces contextes les plus institutionnels. Et donc ça, c'est un peu. Oui, voilà, c'est.
Ils vont pouvoir se rencontrer du coup.
Oui, à un moment.
Ta thèse démarre en effet, tu l'as évoqué tout à l'heure, sur le roman graphique, l'émergence même presque du terme et du champ qu'il désigne, comme point de départ de la réécriture d'une histoire en fait. C'est-à-dire que non seulement c'est une forme qui émerge, mais cette forme crée sa propre historicité puisque ces auteurs prescripteurs, comme tu l'as dit, des influenceurs, si on voulait prendre un terme plus contemporain, d'un seul coup citent une série de personnes qui n'est pas la lignée qui avait été justement dans l'histoire canonique de la bande dessinée, où on a placé des jalons, Winsor McCay, puis le Golden Age du comics, ce genre de choses. Là, d'un seul coup, on a d'autres parents, d'autres pères mais anciens qui vont être revendiqués par toute cette génération-là. Et selon toi, c'est un départ pour quelque chose qui te semble digne d'intérêt pour cette thèse.
C'était vraiment une des pistes fondamentales, même si le but n'était pas de faire un genre d'histoire du roman graphique. On a vu quelques tentatives aussi universitaires de se faire, enfin, dont un grand volume qui s'appelle The Cambridge History of the Graphic Novel, par Ian Button, Sue Geoffrey et Stephen Tabachnik, qui revient sur voilà, comment est-ce que le roman graphique est apparu, en remontant jusque, je pense, le premier chapitre revient au 19e siècle et reprend différents jalons. Et donc, on voit comment est-ce que l'histoire de la bande dessinée peut aussi être réécrite à l'aune de cette forme du roman graphique. Avec aussi, ce qui permet aussi des éclairages de bande dessinée complètement oubliées. Il y a un chapitre de Ian Button justement sur les romans dessinés des années 50 qui étaient des formes de romans photo, mais entièrement dessinés, donc sans l'utilisation de photos, et qui a un corpus qui est complètement laissé en marge de la bande dessinée. Donc, on n'a jamais considéré ça comme une forme de bande dessinée. Mais soudainement, le fait que cette catégorie du roman graphique apparaisse permet un peu de réintégrer, si on veut, au final, peu importe qu'on considère ça comme partie de l'histoire de la bande dessinée ou pas, mais de faire saillir dans une nouvelle lumière, si on veut, des objets du passé qui étaient complètement oubliés. Je pense que le retour de Masserel, c'est aussi un des, enfin, autant aux États-Unis qu'en Europe, c'est un des grands, j'ai envie de dire dommage collatéral, mais c'est un peu négatif. Bon, dommage collatéral, mais dans le sens positif, du roman graphique, c'est ce retour de Frans Masserel, qui n'était pas oublié, mais qui était connu dans un cercle de graveurs, un peu un cercle spécialisé, et que le roman graphique a vraiment fait renaître dans une nouvelle lumière, où on se dit aussi, ah ben en fait ça devient stimulant parce que c'est aussi un récit complètement muet, comment est-ce qu'on peut construire une narration muette sur du long terme en utilisant juste de la gravure, et cet effet de retour a aussi généré des nouvelles créations, dont le travail d'Olivier Depré et enfin, tous les travaux en gravure qu'on peut trouver aujourd'hui, qu'on peut voir comme un effet de ce retour, comme un feedback loop avec le passé, quoi. Ces espèces d'annexions, je pense qu'Erwin parle souvent d'annexion rétrospective, que c'est peut-être un terme qu'il a aussi pris à Menu, je ne sais plus trop. Mais voilà, enfin, ces enjeux-là sont aussi intéressants. Donc le but de la thèse était moins de chercher à écrire une histoire du roman graphique qui serait plus juste en se disant, ah oui, comment est-ce que le roman graphique est apparu dans la bande dessinée, ou d'essayer de lui donner une forme de généalogie, mais plutôt de voir comment est-ce que le roman graphique, dans sa forme la plus instituée, donc autour des années 2000, où il y a vraiment le succès outre-Atlantique du roman graphique comme une espèce de forme littéraire, comment est-ce que dans ce contexte-là, l'histoire de la bande dessinée est récupérée, est réutilisée, quelle valeur est là, quels usages on en fait?
Donc tu parles d'une forme de généalogie qui tout de même s'écrit à la lueur de l'arrivée du roman graphique. En tant que prof dans une école d'art, le fait qu'un artiste refabrique sa généalogie et donc fasse une espèce de lignée dans laquelle il va raccorder des artistes de loin en loin qui arrivent jusqu'à lui, c'est un phénomène qu'on retrouve depuis assez longtemps et certainement depuis les avant-gardes qui ont fait ce travail de dire une bonne partie de l'art est achetée à la poubelle, sauf telle personne dont je me revendique et dont le travail devrait être redécouvert. Est-ce que c'est un phénomène qui était déjà apparu auparavant en bande dessinée? Je crois pouvoir pointer quelques auteurs qui ont fait ce travail, mais est-ce que c'est quelque chose qui est dû, selon toi, à cette arrivée, quelque part, à une forme de maturité, malgré tout, du médium?
Je suis content que tu parles des avant-gardes, justement, comme quelque chose qui fait à la fois table rase, mais qui revendique des figures. On parle beaucoup du côté table rase, on jette le passé à la poubelle, mais en fait, les avant-gardes construisaient toujours leur propre généalogie. En disant justement contre l'art académique, on va se revendiquer de telle et telle figure, souvent aussi des figures assez contre-intuitives, en mettant en forme des formes d'écriture de l'histoire très différentes. Donc l'arme généalogique est réutilisée d'une certaine manière. Les surréalistes, je pense, font des pêle-mêle où ils agencent des portraits d'auteurs différents sur des tableaux pour créer des formes de généalogie. Et on voit aussi donc que c'est non seulement un genre de revendication du passé qui est radical par son biais sélectif, très subjectif, qui du coup met en défaut les histoires traditionnelles, mais aussi par les processus matériels, les formes de présentation graphique dans lesquelles ils le font, qui n'ont rien à voir avec une forme d'histoire linéaire aussi. Enfin, les juxtapositions de portraits, par exemple, il y a quelque chose de très radical où c'est une manière très différente de s'ancrer dans le temps. Donc, en bande dessinée, je pense que c'est ce geste de se revendiquer d'auteur précédent est en effet assez récent, en tout cas aux États-Unis. où on a vraiment une revendication généalogique, où il y a des auteurs qui vont se dire influencés par telle ou telle figure, et où on a un processus de lien très fort. Donc plus personne aujourd'hui ne lit Frank King sans penser à Chris Ware. Ce lien historique très fort entre certains auteurs contemporains et certains auteurs du passé, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et en même temps, la question de quelles sont vos influences a toujours été une des premières questions de tous les fanzines de bande dessinée. Donc je pense que cette revendication a toujours été là, mais plus, j'ai peur de dire peut-être quelque chose de bateau, mais plus académique, on va dire. Voilà, Milton Caniff, Hugo Pratt, Munoz, Comès, etc. On peut voir un lien par le style qui est revendiqué certainement par les auteurs, que les auteurs ne cachent pas non plus. Mais on est plus dans l'effet de transmission d'un style graphique. Où en fait, on aborde plus cette question du fait de l'influence linéaire plutôt que du regard rétrospectif et de l'affinité élective. Ça serait la grosse différence. Après, il y a le cas de Kurtzman est par exemple assez intéressant parce que Kurtzman, dans tous les magazines qu'il va lancer dans les années 50, déjà dans Mad, dans, après Help, Trump, Humbug, qui sont des magazines à vie très courte, intégrait toujours une capsule historique dans ces magazines où il présentait Carandash, des auteurs du 19e qui ont des rapports beaucoup plus ténus avec la bande dessinée, qui peuvent paraître surprenantes, où il s'amuse aussi à remplacer les légendes en les réécrivant dans un espèce de faux allemand qui du coup évoque un peu les pim-pam-poum qui parodie. Donc il y a un peu un caractère assez ludique, mais aussi tout aussi patrimonial. Et bon, on sait que Kurtzman a une influence sur Spiegelman et sur le reste des générations présentes, donc je dirais pas que c'est un cas à part, mais ça existait.
Voilà, on a déjà couvert une bonne partie de ta méthodologie et des présupposés de ta thèse. On va donc pour le futur aborder ces thématiques, ces six gestes que tu utilises pour séparer les éléments de ta thèse de manière à la fois arbitraire, mais de telle manière à structurer un contenu, qui sont archiving, curating, reprinting, forging, sweeping and undrawing. Donc, comme on a dit, on va les traduire par archiver, exposer, rééditer, contrefaire, copier et détourner. Et on abordera ça de manière transversale, sans les prendre terme par terme, parce que sinon, il suffirait de reprendre ta thèse et en faire une forme de digest, ce qui, j'imagine, va être fait dans les prochains mois ou années.
J'y travaille, donc faire ces capsules m'aide aussi à réfléchir tout ça, mais sans plus de détails pour le moment.
Eh bien, merci Benoît.
Merci Stéphane.